première question. Quelle est la constitution du Conseil constitutionnel? De quoi est-il fait? Et finalement aussi un peu quels sont ses pouvoirs? Et ensuite, la deuxième question, à l'heure actuelle en France, combien il y a de puits de fractionnement?
De fracturation.
De fractionnement. Excusez-moi, avec les mathématiques, des fois, je ne suis pas...
Du massage.
Comment?
Du massage.
Oui, du massage. Voilà.
De massage. Absolument.
De la roche mère.
De titillement.
Voilà. Alors, Donc le Conseil constitutionnel, il est composé de juristes spécialistes de la Constitution, donc celle de 58, donc il y a effectivement de fait les anciens présidents de la République qui en sont membres, et il est là évidemment donc pour valider ou invalider une loi, les lois qui seraient conformes ou non conformes, évidemment, à la Constitution, qui, elle, est donc chargée de défendre les droits du peuple et du citoyen.
Mais comment sont les conflits d'intérêts?
Ils sont nommés par le président, comme le Conseil d'État, d'ailleurs, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, par délégation du président.
D'accord. Et à chaque fois, chaque nouveau...
Non.
Jusqu'à mort s'en suive.
Voilà.
Ouais. C'est pas la royauté, mais presque.
Et c'est pas franchement. Non, mais c'est pas franchement des jeunes qui siègent au Conseil constitutionnel. Il faut avoir un peu de bouteille.
Tous les ex-présidents de la République en font partie. Oui,
de fait, ouais, absolument, absolument. Oui, oui. Et alors bon. Donc ça, voilà,
la première question, les pouvoirs donc sur la Constitution, par interprétation de la Constitution, voilà. Pour voir si effectivement c'est conforme ou pas.
Je réponds à la deuxième.
C'est dans le deuxième, la première. C'est pas un pouvoir de cassation en fait.
Ah non, c'est une juridiction, tout à fait spécifique. Ça, ouais. Non, ça n'a rien à voir. Donc je réponds à la deuxième question. En réalité, actuellement, il y a, je crois, 7 puits de forage exploratoire qui ont lieu actuellement en Seine-et-Marne. Et normalement, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Par contre, une précision sur l'ensemble du territoire, c'est quand même 59 départements, dont les deux tiers du territoire français, qui sont potentiellement impactés par des permis ou des demandes de permis. Deux tiers du territoire français. Je peux vous montrer la photo, je ne sais pas si tout le monde la verra. Voilà, c'est les parties en noir, sur la carte de France, là. Voilà. Et puis, il y a notamment aussi la Guyane. Vous savez que la première ministre de la mandature du gouvernement Perrault, sous la mandature de Hollande. Donc c'était Nicole Bric. On a tous applaudi quand elle a été nommée parce que elle connaissait vraiment le dossier. Elle avait ferraillé dur au Sénat, parce qu'elle était à cette époque-là sénatrice de Seine-et-Marne, contre justement, elle avait alerté sur les imperfections de la fameuse loi du 13 juillet 2011. Qui en réalité donc interdit la fracturation hydraulique, mais l'autorisait pour dans le cadre de recherches scientifiques. Bon. Voilà. Donc elle connaissait très bien le dossier. Quand elle est arrivée, elle a rendu public tous les permis qui n'étaient pas à ce moment-là d'ailleurs publics sur donc le site du ministère, avec entre autres d'ailleurs cette carte là, elle sort de là, et elle a suspendu tous les permis pour vérifier justement entre autres leur validité et réformer le code minier. Elle s'est fait virer au bout d'un mois. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un consortium entre Shell, Total et une autre entreprise qui s'appelait Tullowall, qui avait donc qui était en possession d'un permis d'exploration en Guyane. Il ne restait plus que les déclarations de travaux de la préfecture, mais comme bon, elle a bloqué, et ils ont appelé. Et hop, au bout d'un mois, elle a éjecté. On a hérité de Delphine Bateau, qui n'y connaît absolument rien dans le domaine de l'écologie, parce que elle, qui était une personne bon, qui nettoyait ses domaines royaux, elle avait fait toute sa carrière d'ailleurs sur la sécurité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était au ministère de la Justice avec Madame Taubira. Mais bon, ça se passait pas bien, donc ils l'ont mise à l'écologie, quoi. Mais voilà. Mais elle ne connaît rien. Hein,
Oui, si jamais le Conseil constitutionnel dit que c'est anticonstitutionnel, parce que juridiquement, voilà, est-ce que l'État peut malgré tout ne peut pas le suivre?
Ah non. Ah non, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire, on appelle ça les QPC, hein, question prioritaire de constitutionnalité. Donc il y a le parcours, j'en ai parlé, donc le tribunal administratif, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel, je vais vous lire là par exemple les attendus de l'entreprise Choupard, hein, si le Conseil constitutionnel dit que la loi n'est pas constitutionnelle, elle est abrogée de fait. Elle tombe de fait.
Donc on retombe à l'époque.
Ah ben ça veut dire que ça y est, les portes sont grandes ouvertes.
Hein. Mais s'ils en ont fait une, ils peuvent en faire une autre.
Bien sûr.
Mais il ne faut pas qu'elle soit
plus intelligente.
Oui, mais il faut du tout. Fais ça tous les deux ans.
Non, il n'y en aura pas d'autres.
C'est pas possible de reposer une loi.
Moi, j'ai entendu à la radio, il y a deux jours, qu'un permis avait été refusé, mais c'était trop rapide, j'ai pas su où. Et que tous les écologistes, etc., étaient très contents. Alors, où c'est et quel a été le combat qui a conduit à ça?
Alors, c'est pas un combat, c'est le permis de Brive. J'en ai parlé ce matin à Radio Temps, parce que donc l'animateur était... content de m'annoncer que donc il y avait un permis, il me demandait confirmation. Alors, rapidement, si vous voulez, pour vous expliquer comment ça se passe au niveau de l'instruction d'un permis. L'entreprise dépose au ministère un dossier. Ce dossier, donc, il regarde rapidement et il est transmis à la DREAL, c'est-à-dire la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du département sur lequel est impacté le permis, hein, où le préfet et la DREAL des départements quand il y en a plusieurs, etc. Cette DREAL instruit le dossier sur ce qu'on appelle la forme, c'est-à-dire la forme administrative. Et au bout de 3 mois, il rend un avis de recevabilité. Le dossier remonte au ministère avec l'avis du préfet, qui devra, s'il y a eu des mobilisations citoyennes, si des élus ont pris des arrêtés, si, etc., etc. Bref, ça remonte au ministère. Et là, au ministère, le CGET, on l'appelle le CGET, le Conseil Général de l'Énergie, de l'Industrie et des Technologies, lui, va instruire le dossier sur la technique. Voilà. Hein. Et à la fin de cette instruction, si le permis est reconnu comme conforme, le ministre a 2 ans pour signer l'arrêté d'octroi. Si au bout des 2 ans, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le permis de Cahors, le ministre ne signe pas cet arrêté d'octroi, le permis tombe de lui-même. Voilà. Bon, après, je ne rentre pas dans les détails de la mise en concurrence, etc., etc., mais... Voilà. Alors, pour répondre à votre question, c'est donc le permis de Brive qui a été rejeté. Il a été rejeté à la suite de l'instruction, donc, par le CGET, le Conseil Général, bon, voilà, etc. Mais, comme je lui ai répondu ce matin, en lui disant, alors, la presse s'est gaussée en disant, vous voyez bien qu'on n'est pas pour, etc., vous avez rien. Il y avait, en attendant, 13 autres demandes qui avaient été déposées. Donc, on se félicite. C'est ce qu'on appelle des effets d'annonce.
Si on arrive à faire une mobilisation qui s'amplifie, ça peut conduire à des refus.
Absolument. De toute façon, je pense que c'est notre détermination qui ne peut que les empêcher de
d'arriver à leur fin.
D'arriver à leur fin. D'autant qu'en plus, alors là, justement, on va reparler du Conseil constitutionnel, parce que le sous-sol en France est juridiquement, donc on appelle ça res nullius, c'est-à-dire qu'il appartient à personne. Hein. Bon, voilà. Donc s'il appartient à personne, il appartient à tout le monde. Il appartient aux citoyens. Hein. Seul, je précise ça, parce que souvent on entend dire, oui, c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol. Taratata, pardon. C'est nous sommes propriétaires du sous-sol, hein, au titre de la
Constitution.
Complètement. Alors, mais par délégation, l'État, enfin là pour le coup le gouvernement en a la gestion. Voilà.
C'est bien un problème de démocratie.
C'est un problème constitutionnel et de démocratie, bien sûr. Bien sûr, et c'est à nous, là, de faire entendre nos voix. Hein? Monsieur, vous oubliez.
Quand l'exploitant arrête d'exploiter son puits parce que ce n'est plus assez rentable d'extraire, puisque le puits arrive à épuisement. J'ai entendu dire que ça n'allait sans nulle autre forme de procès, mais que le puits continuait toujours à dégazer.
Oui.
Et il dégaze, entre autres, ce qu'il était censé produire, c'est-à-dire du méthane. Quel est le rapport, au point de vue gaz à effet de serre, entre le CO2 qu'on connaît bien, qui est produit par les combustions, et le méthane qui, lui, n'est pas encore brûlé?
Alors, d'après les documents internes à l'industrie, dès les phases de forage, il commence à y avoir des fuites de méthane. Les pourcentages, je crois, c'est aux alentours de 10% dès les premières phases de forage. Il y a des fuites de méthane pendant l'exploitation et il y aura des fuites de méthane après l'exploitation. Là, il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis et au Canada sur des puits qui étaient fermés. Là, qui étaient, et effectivement, ils ont relevé des taux importants de fuite de méthane, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il n'en remonte que 20 à 30%. Hein. Mais le forage, lui, il est toujours en place, même s'il met un bouchon de béton au fond. D'autres études ont montré que les tubages et la cimentation donc à l'intérieur des tubes, bon, les tubes sont faits de plusieurs tubes entre eux, et entre les tubes, il y a une cimentation qui est faite. Bon, alors, si elle est bien faite, on peut penser qu'effectivement, il peut y avoir une certaine étanchéité, sauf qu'il a été démontré que la fracturation et les différences de pression liées à la fracturation entraînaient des fissurations dans ces fameux tubages. Donc après, le gaz va migrer. Hein. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, de toute façon, il n'y a pas d'entretien possible de ces puits une fois qu'ils sont fermés. Hein, on ne peut pas y descendre ni d'humains, ni de robots, ni rien. Quoi. Donc les puits fuient effectivement. Et il faut savoir, donc, pour répondre plus précisément à ta question, alors le méthane est un gaz à effet de serre qui est, dont on nous dit qu'il est 25 fois plus puissant que le CO2, qui est donc le gaz de référence par rapport en termes de gaz à effet de serre. Sauf que, il faut préciser, je le précise, il est 62 fois plus puissant pendant les 20 premières années. Et après, c'est 25 fois sur une centaine d'années, l'échelle de 100 ans. Donc c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant.
Et il peut y avoir des explosions ou...
Oui. Oui.
Et comment dans un pays comme la France, des sociétés comme ça, est-ce qu'elles devraient exproprier les propriétaires Comment juridiquement c'est possible de mettre un puits tous les kilomètres et les tuyaux qui vont avec?
Ça, un puits tous les kilomètres, ça c'est, je ne sais pas comment ils vont faire exactement. Hein. L'expropriation, oui, parce que comme j'en ai parlé donc au début, hein, elle est envisagée. Hein. Et j'essayais de retrouver. Donc Nicolas Sarkozy avait pris une ordonnance que d'ailleurs on a appelée l'ordonnance du désastre en France, voilà je l'ai. Pour vous donner l'état d'esprit qui permet donc de rendre favorable, un climat favorable aux affaires et aux entreprises, hein, donc cette ordonnance... supprimait donc les études d'impact, les enquêtes d'utilité publique. Donc du coup, plus personne n'était informé de ce qui se passait. La démarche ne se passe qu'au niveau administratif. Hein. Ensuite, y a un passage quasi automatique entre le permis d'exploration au permis d'exploitation. Hein. Là, c'était juste un formulaire A4 à remplir par l'entreprise. Hein. Donc, les documents de prospection des compagnies devenaient désormais non communicables au public pendant 20 ans. Voilà. Ensuite, donc, prolongation des autorisations de recherche pendant 10 ans. Pas de garantie financière pour l'État et les collectivités territoriales. Absence de sanctions vers les entreprises en cas de dommage à l'environnement ou de non-respect des autorisations administratives lors de l'exploration, donc pas de principe pollueur-payeur. Hein. Ensuite, cerise sur le gâteau, donc l'article 174.2 stipule que la fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'État de la surveillance et de la prévention des risques. En cas de défaillance ou de disparition de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'État. Donc aux collectivités territoriales, aux collectivités locales et in fine, à nos contribuables. Voilà.
C'est la mafia.
C'est Nicolas Sarkozy qui signe ça. Au mépris de la charte de l'environnement hein, qu'on trouve dans le livre et pour finir donc faciliter à entrer et occuper le terrain d'autrui allant jusqu'à la possibilité d'expropriation prise par le préfet.
Et est-ce qu'on peut faire durer une expropriation, on peut faire durer
10 ou 20 ans? Ah ben, une expropriation, une fois que t'es viré me semble-t-il, non? C'est pas... Oui.
Quels sont les moyens qu'on a pour lutter contre ça?
Alors, dans les collectifs non gaz de schiste, on a des juristes de l'environnement qui travaillent sur ces questions, qui interpellent le ministère, il y a des avocats, etc. Et malheureusement, le problème... c'est que on n'est pas entendu. Il fonctionne en vase clos, pour reprendre une expression de Lévi-Strauss, hein, c'est une sudation en vase clos. Il fonctionne entre eux. Regardez bien si vous avez entendu des noms, par exemple, actuellement, donc il y a la réforme du code minier qui est interpellée sur des discussions, etc. Les industriels, des députés, des sénateurs, etc. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, l'OPEST, l'a bien nommé, ce sont donc, là encore, toujours, on va convoquer donc les pétroliers, Gourm, qui est le patron de Total Europe, Areva, EDF, etc., etc. Alors que les collectifs font de multiples demandes pour être auditionnés, en général, il n'y a pas de l'audition, quoi. Hein. L'actuelle commission nationale de débat public sur la transition énergétique, le comité de pilotage, et c'est Anne Lauvergeon, patronne d'Areva, et donc son second, c'est Jean Jouzel, qu'on présente toujours, que les médias présentent, et là encore une imposture, présente toujours comme étant un expert du GIEC, hein, le groupe international d'études sur le climat, mais les médias omettent de dire qu'il a fait toute sa carrière au CEA, Centre à l'énergie atomique, etc., etc. Donc, et les ONG qui étaient reconnues valables, des interlocuteurs valables auprès des institutions pour discuter, claquent la porte à chaque fois, aussi en disant on se fout de nous, quoi. Donc,
est-ce que l'ordonnance de Sarkozy, elle est devenue quoi?
Ah ben, elle est devenue réalité, parce que qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? J'en donne la définition, c'est-à-dire que c'est donc le président de la République. Alors attendez, j'essaie de retrouver, parce que j'ai pas la définition exacte dans la tête. Voilà, donc c'est l'article 38 de la Constitution qui donne au gouvernement la possibilité, sur autorisation du Parlement, de prendre par ordonnance des mesures de nature législative assimilées à des règlements. Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Il n'y a pas tout le processus de vote à l'Assemblée, on envoie au Sénat, etc., etc. Ça revient, etc. Il n'y a pas de débat.
C'est comme un décret, en fait.
Alors le décret, lui, il vient après la loi, normalement, après le passage d'une loi à l'Assemblée, au Sénat, et éventuellement au Conseil constitutionnel. Donc il y a un parcours, ça prend du temps, etc., etc. Non, là, c'est vraiment, c'est dans la semaine que ça se passe.
Donc c'est pas du tout
des... Donc voilà, donc alors, ces ordonnances... Alors, ce système est utilisé pour des raisons qui tiennent à l'encombrement de l'ordre du jour législatif, à l'impopularité des décisions à prendre, ou encore à un désir d'efficacité et de rapidité.
Maintenant qu'on a changé ça, une ordonnance.
Non, mais il y a dans la Constitution de 58 un article qui émet la continuité de l'État. C'est pas parce qu'un gouvernement change que la France change. Hein? Donc ils peuvent à la marge changer quelques lignes, faire bouger donner une prééminence sur, je sais pas moi, le social, les affaires, enfin bon, bref. Bon. Mais sur le fond, il y a une continuité de l'État, une loi est une loi. Il faut effectivement, alors là pour le coup, le Conseil constitutionnel pour abroger une loi. Et d'ailleurs, on arrive à un empilement de lois, la loi tuant la loi, infernal, et avec des avocats qui sont spécialisés dans tel secteur, parce qu'on arrive à un empilement de lois qui devient ahurissant. Et une des démonstrations, justement, entre autres, sur la question des hydrocarbures de schiste, c'est que ils ne respectent même déjà pas les lois de base. Non seulement la charte de l'environnement, mais le code de l'environnement. Il y a eu d'ailleurs aussi en 2005 ce qu'on a appelé la loi POP, la loi d'orientation des politiques énergétiques. Leur préoccupation, c'est actuellement, c'est le dogme libéral, le dogme économique, et de poursuivre dans cette logique-là, et donc de créer un climat d'affaires favorable aux entreprises. Et d'ailleurs, par rapport aux différents accords de libre-échange dont je parlais tout à l'heure, entre autres, faire passer au second plan les normes environnementales. Hein? Et que donc à partir de là, ils estiment que le droit à l'environnement est un droit excessif et qui les empêche de travailler sereinement.
Ça commence à bien faire. Ouais.
Voilà. Donc, et que ils supportent plus maintenant qu'un État, par exemple, c'est le cas, ça a été le cas là ici, si sous la pression populaire un État prend une loi, ben, eux ils se donnent la possibilité d'attaquer cette loi parce qu'elle n'a pas été conforme donc aux accords de libre-échange.
Mais d'accord, mais toutes les lois internationales sur la préservation de la biodiversité, tout ça, quel pouvoir elles ont ?
Les...
Il y a des lois internationales sur la préservation de la biodiversité.
Non, 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 il n'y a pas de loi.
Il peut pas y avoir de loi.
D'ailleurs, je mets dans le livre, suite à une conférence qui avait eu lieu en Équateur, il y a l'accord des peuples de Cochabamba, donc qui avait réuni à cette époque-là 150 pays. Et dans cet accord, il y a la revendication de la mise en place d'un tribunal pénal international de l'environnement. On a toutes les organisations à l'échelle mondiale pour faire fonctionner le nouvel ordre mondial. L'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale du travail, le FMI, la Banque mondiale, etc. Enfin bon, j'en passe. Mais il n'y a pas de tribunal pénal international. Et on ne peut pas poursuivre, les États ne peuvent pas, j'en ai parlé tout à l'heure, quand elles sont notamment domiciliées au Canada, c'est le cas pour 60% d'entre elles à l'échelle mondiale, donc il n'y a pas de possibilité de poursuivre ces entreprises.
Il y a quelques années,
oui. Il y a une question ici et une question là.
Et puis il y en a une au fond aussi.
Et il y en a une au fond. D'accord. Donc vas-y.
Moi j'avais deux questions très brosines auxquelles vous avez partiellement répondu maintenant. C'était, si j'ai bien compris, donc une ordonnance peut être éventuellement anticonstitutionnelle. Est-ce que ça peut être le cas, vu qu'elle passe au-delà de tout et rapidement?
Non.
Même pas.
Non, parce que là, c'est un acte d'autorité. Hein, l'ordonnance est un acte d'autorité. Oui. C'est le président de la République qui engage sa responsabilité.
Ah, donc quand même, il ne peut pas aller au-delà. Et la deuxième, c'était quel est le poids d'un point de vue constitutionnel de cette charte de l'environnement? Est-ce qu'elle a un poids d'un point de vue constitutionnel ou pas?
La charte de l'environnement, elle est adossée à la Constitution.
Ah, j'étais pas là en première partie, donc j'ai peut-être pas eu toutes les billes.
Non, non, elle est adossée à la Constitution depuis 2004.
Ouais, il y a des choses qui semblent un peu louches quand même.
À quel niveau?
Mais que la charte de l'environnement, quand même, si s'y tiennent, il y a des choses, ça ne devrait pas être tel que...
Ah oui, mais le problème, c'est qu'on essaye, nous, de raisonner avec notre logique à nous. Et une sorte de rationalité, on essaye, de défendre nos droits. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais eux, c'est pas leur problème.
Face à ça, ils nous disent qu'on est des antiquités et qu'il n'y aura jamais d'énergie.
Rappelez-vous,
c'est ça leur grande argumentation.
Rappelez-vous Sarkozy, hein, l'écologie, ça commence à bien faire.
Oui. Deuxième question là.
Je voulais savoir, est-ce qu'on connaît le potentiel justement... du gaz de schiste en France, et est-ce qu'il y a eu des études à ce propos? Voilà, quel est le potentiel, et si la France est vraiment rentable dans ces termes?
Alors, il y a une agence américaine qui a fait des extrapolations sur la base des bassins miniers aux États-Unis et qui... a fait des extrapolations comme ça sur les bassins sédimentaires, notamment en Europe, en Pologne et en France. Bon, parce qu'on serait les deux grands bassins les plus fournis, etc. J'en ai parlé donc tout à l'heure, hein, les surévaluations des réserves, etc. Récemment, là, elle vient de baisser d'un quart les estimations qui avaient été faites il y a deux ans, toujours par la même agence. Sur quoi exactement s'appuie-t-il? Ça, on ne sait pas. Hein. Et par ailleurs, pour donner un exemple, celui de la Pologne, hein, tout simplement, hein, ils avaient donné, 5000 milliards de mètres cubes, c'était pour 60 ans, et en réalité, même l'Institut de géologie polonais lui-même a revu, a divisé par 3, voire 4, ces prétentions-là. Et après, une fois que c'est sur le terrain, là, ça diminue encore. Hein. Donc, en réalité, en France, toute personne raisonnable dit « on ne sait pas ». On ne sait pas.
On ne sait pas ce qu'il y a. Traite l'information par une agence...
Ah oui, mais pourquoi le font-ils? Parce que justement, c'est pour nourrir les intérêts de leurs propres entreprises.
Ils m'ont laissé faire ça.
Patrick?
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de sociétés pétrolières qui perdaient de l'argent aux États-Unis sur l'exploitation de gisements. Est-ce qu'on peut fonder des espoirs là-dessus en se disant que ce ne sont pas des philanthropes, donc. S'ils n'ont pas d'argent à gagner là-dedans, ils vont abandonner ce système d'exploitation.
Mon sentiment, c'est que ça se passe, c'est très lié à la finance, hein, aussi ces questions-là. Je lisais le dernier bulletin du laboratoire européen d'analyse politique qui paraît tous les 15 de chaque mois. Et qui prévoit un nouvel effondrement à l'échelle mondiale de la finance pour les prochains mois, avant fin 2013. Quoi. Leur explication, c'est de dire, entre autres, ils savent parfaitement que ça va se casser la figure, mais tant qu'ils peuvent jouer, en fait, parce que c'est une addiction, un jeu, etc., ils vont jusqu'au bout, quoi. Non jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé pour les subprimes. Hein. Ils le savaient, hein, que ça allait se casser la figure. Ce n'était pas viable comme système, puisqu'on faisait crédit à des gens qui ne pouvaient pas payer leur crédit. Hein. Donc, et là, sur la question des hydrocarbures, c'est exactement la même chose. Ils sont dans une fuite en avant. Je regardais un reportage il n'y a pas longtemps où le gars disait, mais de toute façon, même si quand on a des puits pourris, on les revend et on trouve toujours un pigeon pour acheter. Voilà leur logique à eux, en fait. Hein. Donc, il est vrai que moi je dis, c'est la meilleure nouvelle qui pourrait nous arriver en France, si tant est qu'on ait une presse indépendante qui révèle ça. Parce que là, maintenant, quand même, depuis fin 2012, on sait ce qui se passe aux États-Unis sur ce terrain-là, entre autres en particulier, mais je suis bien persuadé que personne n'en a entendu parler ici dans la salle.
De quoi ?
De la bulle spéculative qui est en train d'éclater aux États-Unis sur l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.
Il y a eu un article dans Politis qui évoquait cela. Mais bien entendu, c'est Politis. Tout le monde ne dit pas Politis.
Alors, si la finance a des intérêts et du coup elle veut mettre de l'argent, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser les statistiques qu'ils ont faites, comme quoi soi-disant c'était valable, qu'on voit très bien qu'avant le forage et puis ils sont sur place, c'est moyennement satisfaisant par rapport aux statistiques, et qu'une fois qu'ils forent, bah, en fait ils se rendent compte que c'est encore moins satisfaisant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir mettre ça au jour de telle manière à calmer les financiers en leur présentant le fait que c'est pas si rentable que ça.
Mais ils le savent. J'espère d'ailleurs qu'ils liront mon livre. Parce que les multiples commissions qui ont été nommées, alors là aussi, je veux dire, comment se fait-il en France qu'on paye autres contribuables, de multiples commissions, que tant en France d'ailleurs qu'au niveau de l'Europe. Parce que là aussi, il y a eu des commissions, des études qui ont été faites, etc., pour estimer les incidences de l'exploitation de ces hydrocarbures et de la fracturation hydraulique. Et je sais pas, ça fait 10 ans, 12 ans. Enfin, nous, en tant que citoyens, ça fait 2 ans, on sait parfaitement de quoi ils retournent. Hein. Mais eux, ils ne savent toujours pas. D'ailleurs, là, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, etc., ils vont aller en vacances aux États-Unis, ils vont faire un détour par l'Angleterre, ils vont peut-être aller en Pologne, etc., à nos frères, pour aller voir comment ça se passe là-bas. Voilà. Hein. effectivement, c'est une grosse arnaque, une imposture. Une imposture.
Est-ce que le traité transatlantique qui est en train d'être négocié, signé en ce moment, ne va pas changer la donne à ce niveau?
Ah, ben alors là, pour eux, c'est l'autoroute. Hein. Pour eux, c'est l'autoroute. Hein. Ah, ben bien sûr. Bien sûr. Parce que sur justement les traités de libre-échange, justement, il y a plusieurs chapitres qui concernent d'ailleurs les normes environnementales et sanitaires, hein, et des peuples. Donc, c'est carrément, tout ça, ça passe à la trappe. Hein. Ça passe à la trappe. Alors, là où, justement, le double jeu du ministère, par exemple, et du gouvernement en général, hein, parce que bon, Delphine Bateau, elle ne fait pas ces choses-là sans en référer à son patron, héros, hein, quand on connaît, évidemment, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Hein. Bon, elle vient de proposer de faire des états généraux afin de moderniser, on sait ce que ça veut dire, de moderniser les normes environnementales, alors que justement, ils sont en train de travailler sur la réforme du code minier. Et que justement, dans les accords de libre-échange, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à l'abaissement du seuil des normes environnementales actuelles.
On va reculer.
Mais on ne va pas reculer, on va dans le mur déjà, et on va de toute façon là où ils veulent aller. Enfin, c'est pas on va, c'est eux qui imposent. Non, mais là on est dans le despotisme, hein, de des multinationales qui n'ont jamais été des modèles de démocratie, qu'on sache. Bon, mais
je crois une partie de nos pensées pour pouvoir tout ça se mettre en place en ce moment, c'est une fuite en avant, parce que notre système économique, notre train de vie est entièrement dépendant, comme une junkie, de pétrole. Voilà. Chacun d'entre nous, d'être ici ce soir, on ne peut parce qu'on a tous la voiture dehors. Hein?
Et les vêtements, et la brosse à dents,
et les médicaments. Les gisements de pétrole conventionnels vont se périmer 40 ans, grosso modo. Et sachant que si on se met sur un vélo et on pédale pendant 10 heures, on produit l'équivalent de 100 millilitres de pétrole. Alors, on ne va pas s'en passer du pétrole d'aujourd'hui à lendemain. Et c'est, je crois que nos politiques, les industriels, ils ne veulent pas s'imaginer qu'est-ce qui va arriver avec notre mode de vie, avec leur profit, avec tout, s'ils n'ont plus de pétrole.
Mais il n'y a pas que le vélo.
Il va falloir trouver autre chose.
Il y a le soleil, il n'y a pas que le vélo quand même.
C'était la comparaison.
Le soleil aussi, c'est pas toi qui l'exploite, c'est son écran usine, c'est dans les mains des mêmes multinationales.
Alors, je pense qu'il n'y a pas, Léna, que la voiture. Hein. Je veux dire, c'est le modèle de développement qui s'est fait sur cette quasiment seule énergie. Est complètement jusque au sein de notre intimité, hein, c'est l'agriculture, elle est ce que nous mangeons, c'est du pétrole, hein, pour labourer les champs, les tracteurs, les pesticides, etc. Notre brosse à dents, nos vêtements, nos médicaments. Enfin, tout l'industrie pétrolière et chimique a envahi tous nos espaces de vie. Donc, c'est pas seulement on n'arrivera plus à rouler ou on devra prendre un vélo, etc. Non, c'est vraiment l'effondrement d'un monde, celui qu'on connaît, le monde de l'ère pétrolière.
Pourquoi on produit les œufs tout d'or? Je vois, par exemple, j'ai vu au musée de Salassos, il y a quelques années, quelqu'un qui s'est empanné avec la paille. C'est
un témoignage.
Bon, avec la paille et de l'écorce de ronce. Et on en trouve encore des paniers avec la paille et des cordes de ronces. Oui, les gens ne savent pas forcément. Si on va acheter un panier, c'est que du plastique.
Non mais là, je pense que il s'agit maintenant, à l'image de ce que défend Pierre Rabhi, il nous faut refonder le monde. C'est un chantier superbe et qui ouvre des perspectives immenses. Hein. Mais pour cela, il nous faudra bien reprendre les pouvoirs qui nous ont été confisqués, hein, et sur lesquels, bon, on n'a pas trop résisté non plus, hein, bon, bref.
Voilà. Ouais. Les petites faiblesses existent.
Oui, vous voulez savoir s'il y avait des raisons d'être optimiste.
Tout à l'heure, on est un peu pessimiste.
On n'est pas pessimiste, on fait le constat. Parce que avant de pouvoir changer quoi que ce soit, il faut déjà faire le constat de ce qui se passe. Hein, il faut identifier les problèmes. Hein, alors, justement, dans l'introduction un peu de mon ouvrage, j'ai mis une prophétie de Ivan Illich. Ivan Illich, c'est le précurseur de l'écologie politique qui a été repris après par Herbert Marcuse et André Gorz, hein, philosophe, en tout cas. Et en 73, donc, dans son opuscule Énergie et Équité, il disait « Les politiques de l'énergie qui seront appliquées dans les 10 prochaines années, donc c'était en 73, hein, décideront de la marge de liberté dont jouira la société. Une politique de basse consommation d'énergie permet une grande variété de modes de vie et de culture, et je rajoute, d'espace, de liberté et de démocratie. Si au contraire la société se prononce pour une forte consommation d'énergie, alors elle sera obligatoirement dominée dans sa structure par la technocratie et sous l'étiquette capitaliste ou socialiste, cela deviendra pareillement intolérable. » Voilà, nous sommes dans cette configuration. Alors maintenant, on va peut-être aborder justement le sujet qui va nous réconcilier avec l'humanité, c'est la transition énergétique. La porte de sortie, c'est ça. Hein, c'est effectivement, il faut revisiter nos modes de vie à l'échelle individuelle, mais il faut aussi lutter sur le plan politique. Il faut qu'on s'en réinvestisse de notre espace politique et démocratique, parce que en tant que citoyen, c'est ce que nous sommes. Hein. Et si on les laisse faire, moi je considère que ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant, c'est aussi parce qu'on les a laissés faire. Bon, donc maintenant, à partir de là, on va aborder la question de la transition énergétique, parce que là, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère du Développement Durable a nommé une commission nationale de débat public, soi-disant, sur la transition énergétique. Sauf que le public, il a claqué la porte, vu la composition du comité de pilotage. Donc, et aujourd'hui, elle se fait sans les citoyens, et donc, ils privilégient dans leur réflexion toujours les gros opérateurs. EDF, Areva, Veolia, Vinci, etc., etc. Bon, donc, maintenant, sur le territoire, il y a quelques trois rares encore expériences pionnières d'indépendance énergétique, pour le coup, relocalisées à l'échelle des quartiers, à l'échelle d'une communauté de communes, à l'échelle d'un village, d'un lotissement, etc., etc. C'est ce qui se passe d'ailleurs, donc, à mener en Bretagne, hein, à l'échelle d'une communauté de communes, donc ils ont réussi à atteindre l'indépendance énergétique pour 4700 habitants à l'aide de méthanisation, donc cogénération, c'est-à-dire méthanisation, donc production de méthane et donc alimentation d'une génératrice qui fournit de l'électricité, chauffage au bois et petit éolien. pas des trucs de 150 mètres de haut, etc. Et là, il y a une communauté de communes qui est indépendante énergétiquement parlant. On peut faire la même chose au niveau de l'alimentation. Pareil, hein. Donc, alors évidemment, eux, ça leur a pris 12 ans faire ça. Donc, parce que leur problème, non, mais parce que leur, ils ont défriché le terrain aussi, hein. Donc, parce que effectivement, toute la législation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avait été faite pour privilégier justement les gros opérateurs qui, à ce moment-là, quand même, étaient dans le domaine public. Hein. Donc, c'est pas techniquement en fait c'est pas un problème, on a les solutions quoi, hein. Donc il y a l'éolien, il y a le solaire, il y a l'hydraulique, il y a la cogénération, il y a la géothermie, il y a enfin une foultitude de possibilités, et il suffit de regarder quelle est la configuration du terrain, etc. Par exemple, moi j'habite sur le cause du Quercy, on se trouve être à la confluence du climat océanique et du climat méditerranéen. Une région où il n'y a pas de vent, donc c'est pas la peine d'y mettre des éoliennes. Hein. Il faut trouver ce qu'il y a sur le terrain. On a des agriculteurs donc, qui ont des exploitations qui nécessiteraient d'avoir 300 hectares alors qu'ils n'en ont que 100. Hein. Donc il y a des excédents d'effluents, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils en font? Alors qu'il y a des normes par rapport au code rural, eux ça les dérange pas, enfin ils balancent ce qu'ils ont à balancer, quoi. Donc si c'était récupéré, alors là par exemple à Menay, les agriculteurs sont partie prenante, ils amènent leur lisier dans l'unité de méthanisation, et puis par un processus donc, de dégradation, etc., ils récupèrent ce qu'on appelle le digesta, qui est un engrais naturel. Hein? Et donc, là, il n'y a plus d'utilisation de pesticides. Et tout ça se fait gratuitement. Et alors, là où ça devient intéressant aussi, parce que de nouveau, il y a une responsabilité. Responsabilisation du citoyen, non plus comme étant un simple consommateur, mais comme étant aussi partie prenante, parce que les gens sont, je ne vais pas dire actionnaires, parce que c'est vraiment un gros mot, mais ils sont participants et acteurs, et ils financent le projet. Ce qui fait que quand on appuie sur un bouton électrique, on sait qu'on est impliqué dans l'affaire. Donc on réagit déjà de manière différente. L'autre intérêt également, c'est que ça recrée du lien social. Hein? Parce que les gens participent à des réunions publiques, on réfléchit sur les techniques, sur les choix, hein, etc. Donc ça n'a que des avantages. Et ça permet justement vraiment là de se retrouver acteur de sa propre... avec la communauté, au sein de la communauté, de se retrouver acteur de l'avenir, non seulement de notre avenir, mais aussi de l'avenir de nos enfants et des petits-enfants et des générations futures.
Excusez-moi, parce que moi j'ai rencontré des gens qui sont sur l'unité de méthanisation de mon bazar, enfin j'ai rencontré une personne. Donc pour récupérer les excréments des animaux, il faut évidemment que ce ne soit pas des animaux en plein champ. Donc si c'est des animaux qui sont enfermés, on récupère leur merde,
enfin,
c'est ce qu'il nous a expliqué.
Ah, mais... Ah oui, bah, je sais pas, moi je vis à la campagne, même les vaches en plein champ, elles rentrent pour la traite, par exemple. Enfin bon, voilà, hein, ou en hiver, elles y sont en hiver. Hein, donc, non, c'est pas... Moi je connais bien Claude Catalan, qui est donc le maire de la commune de Montbazin et président de la communauté de communes, qui est venu nous présenter à Villefranche son projet, parce que ça, ce sont des choses, ben, je reviens là-dessus, effectivement, il y a, je n'ai peut-être pas l'adresse ici, une association qui s'appelle Bizi, qui est dans le Pays Basque, et qui vient de publier une boîte à outils, un document de, je crois qu'il fait une centaine de pages, alors sur les transports, sur l'éclairage urbain, sur tous les aspects de la vie, hein, collective et commune, Donc une boîte à outils qu'il faut aller présenter au maire. En fait, parce que je rappelle que le paquet énergie climat dont j'ai parlé tout à l'heure, 20% de consommation en moins, 20% d'efficacité énergétique et 20% d'énergie renouvelable qui devra donc voir le jour d'ici 2020, quand on va faire le bilan, les comptes ne vont pas être là. Hein. Chaque année, on bat des records, un, d'augmentation de l'énergie, et deux, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a vraiment une urgence d'aller voir nos futurs élus, les candidats, et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs hein, sur la question des gaz de schiste, on les a interpellés aux législatives, aux municipales, etc. Et on leur a demandé de se positionner. Et on a publié les positions. Et là, c'est pareil, on peut très bien aller voir les candidats, les futurs élus, en leur disant, en fait, il y a quand même un problème, ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce que vous comptez faire dans votre prochaine mandature sur la question de l'habitat, des transports, etc., ou de l'agriculture, puisque là, bon, voilà, on est dans une région agricole, etc., etc. Et d'y aller, par exemple, avec une boîte à outils en disant, écoutez, regardez, moi, j'ai ça. Je peux vous faire des propositions. Voilà, là, on reprend en main notre...
La station de Bizy, c'est comme en anglais, enfin, c'est B-U-S-Y.
Non, c'est B-I-Z-I.
D'accord.
B-I-Z-I.
Question.
Ouais. J'ai pas l'adresse qui renvoie, mais enfin, il est téléchargeable, hein, le document, gratuitement. Il y a même d'ailleurs une lettre d'introduction à présenter aux élus, hein, donc en plus, le travail, il est fait, et ça, c'est vraiment important, quoi. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire. C'est comme ça qu'on va sortir de la dépendance, d'abord, dans laquelle on se trouve, comme il a été dit tout à l'heure, comme des junkies, parce qu'on a mandaté, on a délégué aussi nos responsabilités, trop, auprès des élus, enfin, de quelque nature qui soit. Et donc, de les réinterpeller, là, ça change le rapport qu'eux aussi s'imaginent avoir la plupart du temps avec les citoyens, quoi. Enfin, par rapport aux démarches que nous, on a fait auprès des élus, que ce soit des élus locaux, territoriaux ou régionaux, ou voire des députés, hein, en général, ils ont quand même été assez à l'écoute, quoi, parce que c'était des collectifs citoyens. Hein. C'était des collectifs citoyens, et on était sur les places de marché, on tractait, on a une, par exemple, sur Villefranche, là, on a 300, une liste de diffusion de plus de 300 personnes, mais par exemple sur NGSPC, qui est l'association qui fédérait l'ensemble des collectifs qu'il y avait sur le permis de Cahors, c'était plus de 900 personnes. Hein. Et donc, on a un poids. Hein. On a un poids. Hein.
Justement, comment mobiliser ceux qui ne se sont pas concernés?
On peut pas
mobiliser ces 51 départements, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas concernés. Comment mobiliser, comment faire circuler l'information correctement?
Mais il faut faire le travail que tout militant fait, c'est-à-dire que il faut bon, on a fait le bilan, mais il faut proposer, il faut avoir des propositions, hein. Et ce genre de boîte à outils, je crois que Greenpeace en a fait une aussi sur cette question-là. Il y a puis d'ailleurs, par exemple, le scénario mégawatt, hein, par exemple, hein, aussi. Donc, on n'est pas démunis, hein. Et donc là, on vient avec des forces de proposition, et là, ça intéresse les gens. Parce que justement, aujourd'hui, on a tous tellement pris des coups de bâton sur la tête qu'il y a une sorte de fatalisme en disant par où on va prendre le problème, quoi. Hein, c'est ça. Hein. Donc, et là, ce genre d'outils, on organise des réunions, voilà, et on tracte, on interpelle les élus, on convoque la presse, enfin, on fout le bazar, quoi. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Hein. Et donc, il faut le faire maintenant parce qu'on a les outils. Les alternatives, il y a... Je veux dire qu'avant les années 2000, on ne parlait pas vraiment d'alternatives, on ne savait pas trop, etc. Et puis ça, les problèmes ne se posaient pas avec autant d'acuité, etc. Mais maintenant, on les a, quoi. Techniquement, c'est même plus le problème technique. Au niveau technique, on a des trucs, quoi. Et puis, si tout n'est pas parfait, parce que j'entends dire, ouais, mais les panneaux photovoltaïques, ça pollue. Oui, d'accord, mais enfin, un peu moins peut-être que, bon, etc. Enfin, il faut regarder l'empreinte écologique, machin, etc. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que ça va être un travail, par exemple, sur 10, 20, 30, 30 années. Mais il faut le faire, et il faut le commencer maintenant. Parce que dans 2020, c'est demain, quoi. Je veux dire, quand on va commencer... Ben, dans leur esprit, au niveau des politiques, eux, ils disent bon, on va commencer le bazar, mais peut-être en 2050. Non, c'est trop tard. Il sera trop tard.
La fin du pétrole, c'est pour dans 15-20 ans.
Alors là, c'est pas. Là, en fait, en réalité, on ne sait pas non plus, parce que l'OPEP a toujours refusé qu'il y ait une agence internationale indépendante pour avoir une idée de l'évaluation des stocks, machin, etc. Donc en réalité, on ne sait pas. Par ailleurs, au niveau international, là aussi, les compagnies ne sont pas tenues de donner les capacités de leur gisement, d'exploitation, etc. Donc en réalité, on est quand même dans le flou, quoi. Mais moi, je me dis une chose, c'est que s'ils vont forer si loin en terre, c'est qu'il y a un problème, quoi. Parce qu'ils ne donneraient pas ce mal-là, quand même. Surtout si ce n'est pas rentable.
Une question ici, juste pour voir, le pic d'hydrocarbures conventionnels est passé vers...
Pardon ?
Le pic d'hydrocarbures conventionnels, en fait, on a atteint le maximum de production d'hydrocarbures conventionnels par an, et ça a diminué là, les dernières années.
Le fameux pic de Hubbert.
Oui, mais maintenant, il y a les hydrocarbures non conventionnels qui font qu'on augmente encore, mais en conventionnel, ça a diminué, non ?
Sur la question du pic de Hubbert, en fait, en réalité, par exemple, si les États-Unis l'ont passé depuis les années 70, l'Arabie Saoudite, on ne sait pas. Bon, alors, donc, ce que Hubbert dit, c'est que de toute façon, sur une énergie épuisable, il y a forcément une montée au niveau de la production, au niveau de la demande, il y a une stabilisation pendant quelques années, et puis après, donc, il y a forcément une chute inévitable, et quelles que soient les ressources qu'on trouve, elles ne viendront jamais remplacer la courbe de croissance. Et sur la question des hydrocarbures, justement, non conventionnels, ils ne viendront jamais remplacer ni se substituer aux énergies conventionnelles, quoi. Aux hydrocarbures conventionnels. D'ailleurs, là aussi, il y a une manipulation de langage, à savoir que, justement, c'est ce qui a été dit, puisque le méthane est moins polluant que le pétrole et le charbon, on va l'exploiter pour pouvoir remplacer, en fait, le pétrole et le charbon. En fait, vu la croissance de la demande au niveau mondial de par les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil et bien d'autres, etc., je veux dire, la croissance, la demande ne fait que croître. Donc, ça ne se substituera pas aux autres énergies. Ça viendra se surajouter. Donc, moi, je ne sais pas, parce que, je le dis, bon, aux États-Unis, on a vu, c'est les années 70. Après, on a dit 86. Certains ont dit 86. Mais 86, pour qui, pour où, comment après, il y a eu 2006. Donc, même les experts, ils ne sont pas d'accord par rapport à ça. Moi, personnellement, je peux comprendre qu'ils ne soient pas d'accord, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas exactement quelles sont les ressources. Actuellement, ils nous font le même topo par rapport à l'Arctique. En disant, fonte des glaces, tant mieux, on va pouvoir aller forer, on va trouver des gisements... Et puis on en a pour 150 ans encore. Bon, ça, on n'en sait rien.
Le seul pic qu'on connaît, c'est le pic des découvertes. On découvre de moins en moins de pétrole.
Oui, oui, et il faut aller toujours plus loin, toujours plus sale, toujours plus cher, etc. Mais je rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle que l'Agence internationale de l'énergie, elle-même, a dit qu'il faudrait laisser aujourd'hui les deux tiers des réserves prouvées d'hydrocarbures dans le sous-sol. Parce que si on brûle l'ensemble de ces réserves, là c'est la, c'est moi l'expression, mais c'est la planète qui passe plus par-dessus tête, quoi. C'est pas possible, quoi. Au niveau là, on sera à je sais pas combien, à 8 degrés, 10 degrés, ça sera plus tenable, quoi. Il faut les laisser, c'est plus la peine. Donc trouvons d'autres solutions, elles sont là. Allons-y. Et le problème, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas de véritable volonté politique d'afficher, d'aller vers cette transition énergétique qui nous préparera au fameux choc pétrolier ultime quand il n'y aura plus moyen de l'exploiter, quoi.
Vous avez parlé de 3 sites en France d'énergie relocalisée.
J'ai parlé de
3 sites en France où il y a de
l'eau. Non. Alors, Menay, c'est vraiment le cas type de d'une volonté d'indépendance énergétique. Hein. Après, par exemple, Montbazin, dont il a été question, ils font de la méthanisation, mais ils rebalancent dans un peu comme les panneaux solaires et tout ça, dans les tuyaux de GDF. En France, à l'Angolaine, etc., je crois qu'il y a à peu près une dizaine d'unités de méthanisation. En Allemagne, il y en a 5000. Et au Danemark, c'est pareil. Et en plus, il ne peut, par exemple, au Danemark, se faire... De se construire d'unités de méthanisation s'il n'y a pas au minimum, je crois que c'est 30% de financement par les habitants. Ils incitent fortement les populations à investir dans ces nouvelles formes d'énergie et à être acteurs de la production énergétique relocalisée.
Excuse-moi, je crois que ça existe en France. Un fonds qui permet d'investir dans
les
énergies renouvelables, etc.
Il y a des crédits d'impôt. D'ailleurs, Sarkozy avait quand même sérieusement mis un coup d'arrêt à la filière photovoltaïque.
C'est quelque chose,
C'est
l'énergie
partagée,
je crois. Oui, voilà, c'est ça.
L'investissement pour l'énergie
renouvelable.
Voilà, l'énergie
partagée. Oui, mais c'est local.
Ouais.
Il parle de quelque chose de local.
Oui.
Dans local, en Aveyron, il y a 113 aussi. Hein.
Mais bon, alors après, je suis pas spécialiste de la question, mais je sais aussi que beaucoup les élus aujourd'hui privilégient les partenariats public-privé. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Ça.
Oui. Hôpital d'Evry, ministère de la Défense, Notre-Dame-des-Landes.
C'est une catastrophe, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vas sur des trucs comme ça, on hésite, on sait pas trop, on sait pas bien. Voilà, il n'y a pas de véritable politique affichée. C'est ça le problème. C'est ça. Et là, encore, on est une assemblée à peu près avertie, quoi, mais.
S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que on peut continuer un peu la discussion maintenant. Une question encore, et puis peut-être.
Est-ce que le gaz de schiste, pas justement des œillères, alors qu'ils sont en train de prospecter ailleurs sur d'autres conneries du genre encore pire, comme vous dites, encore plus sale, hein. Est-ce qu'on a des pistes justement pour savoir, à part le gaz de schiste, hein,
oui.
S'ils ont d'autres pistes à exploiter justement,
oui,
encore
oui.
Pire. Hein.
Bah oui, j'en ai parlé.
C'est vraiment d'actualité.
Par exemple, les Japonais sont en train. Alors le Canada les a précédés et les Japonais, avec l'histoire de Fukushima, l'arrêt des réacteurs nucléaires, ils sont dans une dépendance. Alors là, ils ont des importations qui ont augmenté de manière considérable. Et donc, ils ont découvert par 300 mètres sous le niveau de la terre, mais en mer, enfin voilà. Donc des hydrates de méthane, mais pour l'instant ça marche pas.
D'accord.
Pas encore.
Donc il y a quand même des recherches pour trouver des
trucs. Ah oui, bien sûr, absolument. Et oui, parce qu'ils ont construit un jouet, en fait, depuis 45, ils vont pas le casser, quoi, ils veulent pas le casser. Hein. Donc, ils cherchent tous azimuts. Hein.
On va remercier Jacques Ambroise de...